La Pâque et la fête des pains sans levain approchent rapidement. On est presque à leur porte. Les merveilleuses fêtes du printemps. Dans le fond, on pourrait dire les fêtes de délivrance de la part de Dieu. C'est ça que ça représente aussi dans l'ensemble, les fêtes du printemps. Mais quand Dieu nous appelle, il nous donne la responsabilité de changer, d'apprendre à compter sur lui pour modifier nos comportements, pour approfondir ses voies, pour aller plus loin, pour nous préparer au monde qui vient. Et quand les fêtes du printemps approchent, comme la Pâque, il faut aussi s'y préparer. Pas attendre à la dernière minute. Et c'est le temps déjà de se mettre dans l'esprit des fêtes du printemps. D'où le titre du sermon aujourd'hui, « Le cœur tourné vers la Pâque ». Le cœur tourné vers la Pâque. Et quand on voit la grandeur de notre appel, on peut comprendre pourquoi ça doit être de tout cœur qu'on se tourne vers les fêtes qui approchent et les vivre intensément avec reconnaissance, en voulant les comprendre de plus en plus d'une année à l'autre. Et c'est ce qui se passe. Allez à 2 Corinthiens chapitre, c'est-à-dire 2 Corinthiens, oui, chapitre 13, s'il vous plaît. 2 Corinthiens chapitre 13. Le livre aux Corinthiens, le deuxième livre. Chapitre 13, et on va lire simplement le verset 5, qui met l'éclairage sur ce que nous devons faire, bien sûr, à l'année longue, parce qu'on doit toujours être en train de se préparer, mais particulièrement quand les fêtes du printemps approchent. 2 Corinthiens 13, verset 5. « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Et lorsqu'on est baptisé, Dieu place en nous son Saint-Esprit et c'est le Christ qui vit en nous par sa puissance, on comprend. Il dit, si vous êtes baptisé, si vous êtes converti, le Christ est en vous, est-ce que vous ne le reconnaissez pas? Autrement dit, est-ce que vous le voyez parce que ça doit paraître? Est-ce que vous le vivez? Parce que Dieu nous donne sa force et on se voit devenir capable de changer des choses de plus en plus. Et quand on est appelé, avant d'être baptisé, Dieu place son esprit avec nous. Et là, on devient capable, jusqu'à un certain point, de changer des choses aussi et on devient capable de comprendre des choses aussi. Pas autant que lorsqu'on a son Saint-Esprit en nous et pas autant que ça se produit avec les années. Parce qu'il y a un approfondissement qui doit se faire, puis il y a un mûrissement qui doit se faire. C'est une des raisons pour lesquelles, chaque année, on reprend le cycle des fêtes de Dieu. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvé ou disqualifié, dans certaines versions ou dans la version originale. Parce qu'en tant que chrétien, on peut être désapprouvé. On peut ne pas avoir l'approbation de Dieu si on ne fait pas ce qu'on a à faire avec ce qu'il nous a donné. Dieu ne nous approuve pas dans ce temps-là. On n'est pas en train de marcher avec lui, on ne lui plaît pas et on n'avance pas spirituellement comme on pourrait avancer et comme on devrait avancer. Parce que la croissance d'un chrétien, ça doit être continu. C'est pas des choses qui se font quelques heures par semaine ou une journée de temps en temps. C'est une façon de vivre. Et je me rappelle quand M. Armstrong nous disait, ce livre-là, la Bible, là, c'est un guide de vie, c'est le mode d'emploi pour savoir comment vivre de la part de Dieu. Et c'est toute notre vie qui en est affectée, qui doit en être affectée, de la bonne façon. Je vous pose la question alors qu'on approche la fête de la Pâque. Est-ce que je suis plus proche de Dieu qu'avant la Pâque l'an passé, si j'étais à l'Église? Est-ce que je suis plus proche de Dieu maintenant que l'an passé à même date? À pareille date. Est-ce que Dieu est maintenant plus réel pour moi qu'il ne l'était il y a une année? Est-ce que j'ai vécu et marché suffisamment avec Dieu? Est-ce que je lui ai parlé suffisamment? Est-ce que je me suis nourri de sa parole suffisamment et la mettre en pratique pour le voir intervenir dans ma vie, pour me donner de comprendre certaines choses, pour m'encourager, pour me corriger? Est-ce que j'ai vu ça? Si j'ai vu ça, c'est parce que Dieu se manifeste. C'est parce que le Christ est actif avec moi ou en moi. C'est ça ce que ça veut dire. Est-ce qu'il y a eu, depuis un an, croissance chez moi? Est-ce qu'il y a eu des changements depuis une année? Dans quelle attitude est-ce que je suis en train de me préparer à la Pâque? Ça, c'est bien important. Dans quelle attitude est-ce que je suis en train de me préparer à la Pâque? Faut faire attention parce que, en tant qu'être humain, on est des créatures de routine. On est des créatures d'habitude. Est-ce que la Pâque qui s'en vient, c'est simplement une autre étape de routine? Ou une autre étape d'habitude? Est-ce que ça risque de devenir une tradition pour moi? Il faut pas. Il faut que ça soit aussi précieux que la première fois que je l'ai prise, ou même davantage, et je dirais même davantage chaque année, alors que je dois comprendre davantage la grandeur de l'appel de Dieu, la grandeur du sacrifice de Christ et son importance pour moi, la beauté de la vie éternelle, ce qui nous attend. Est-ce que j'ai une reconnaissance envers Dieu plus grande que l'an passé? Est-ce que c'est en train de grandir, de croître? Est-ce que j'apprécie davantage ce que Dieu a fait pour moi, ce qu'il a fait pour l'Église, ce qu'il est en train de faire pour mes frères, ce qu'il est en train de faire pour moi? Est-ce que je l'apprécie? Est-ce que je lui dis? Est-ce que je lui dis souvent merci pour ce qu'il a fait? Rappelez-vous l'importance que le Christ accorde à la reconnaissance, à la gratitude. Et M. Appartient nous en a parlé tellement souvent de l'importance de la gratitude. Parce que quand on exprime une gratitude, c'est parce que on a mis un prix, une valeur sur ce qui nous a été donné, on la reconnaît et on l'exprime à celui qui nous l'a donné. Et ça c'est puissant et ça fait partie de notre démarche. Et si cette gratitude-là, elle est pas là dans ma vie, je manque quelque chose et je suis atrophié spirituellement. Il me manque une dimension dans ma vie spirituelle et ça m'empêche de croître comme je devrais croître si je n'ai pas la reconnaissance envers Dieu de tout ce qu'il a fait et de tout ce qu'il fait pour moi. Et particulièrement, et je reviens à ça, concernant le sacrifice du Christ, concernant la Pâque. Le sacrifice suprême de qui? De mon Créateur, de celui qui m'a donné la vie, qui m'a donné l'existence à moi personnellement. Ceux qui sont baptisés doivent prendre la Pâque. Ça fait partie du commandement. Doivent prendre la Pâque. Mais dans une attitude de repentance continue. On prend pas la Pâque parce qu'on est parfait, loin de là. On prend la Pâque parce qu'on a encore besoin de la prendre aussi. On a encore besoin d'être pardonné. On le reconnaît devant notre Dieu. Et on lui demande pardon pour les choses qu'on a manquées. Et on lui demande son aide pour l'année qui vient. OK? Alors, on prend la Pâque, on doit la prendre. C'est un commandement pour ceux qui sont baptisés, mais avec une attitude de repentance continue. Ceux qui ne sont pas encore baptisés, eux doivent se réjouir d'avoir été appelés et d'être en train de se préparer pour éventuellement prendre la Pâque. Si ce n'est pas cette année, parce que Dieu montre que le temps n'est pas tout à fait venu, ça sera une prochaine Pâque. Mais ils seront prêts pour le bon moment que Dieu va nous montrer. Et c'est encourageant pour eux aussi, qui sont appelés maintenant, mais qui ne sont pas encore baptisés et qui ne prendront pas part à la cérémonie de la Pâque cette année. Ils font partie quand même de la famille de Dieu. Ils sont là et ils sont en démarche pour aller plus loin. Et à un moment donné, avant très longtemps, ils vont prendre leur première Pâque. Allez à Psaume 90. Psaume chapitre 90. Psaume chapitre 90. Et nous allons lire à partir du verset 10. C'est un psaume de Moïse. Et ici, ça nous donne la perspective, nous, par rapport à Dieu. On est peu de choses, on est moins que rien. Mais ça donne la bonne perspective, ça nous aide. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, en moyenne. Et pour les plus robustes, à 80 ans. C'est ce que Moïse dit, sous l'inspiration de Dieu. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. C'est vrai, il y a des personnes de 80, 85, 90 qui sont contents d'être là, qui disent « Bravo, je peux faire telle, telle chose. » Mais ce qu'ils font n'est quand même que peine et misère. Ils ne peuvent pas courir, ne peuvent pas soulever de grands poids, ni faire de grands travaux. Ils sont heureux de faire ce qu'ils peuvent faire, et c'est bien. Sauf que plus on avance en âge, plus on réalise nos limitations humaines. Hein? Et Dieu veut qu'on le réalise. Parce que si on réalise nos limitations humaines et notre durée dans le temps, on réalise en même temps que tout nous venant de lui, l'avenir, notre avenir est entre ses mains. Et la vraie vie, la vie éternelle, elle est entre ses mains. Et c'est lui qui peut seul nous la donner. Car la vie passe vite et nous nous envolons, comme dit Moïse. Qui prend garde à la force de ta colère? Le Dieu qu'on sert, c'est également un feu dévorant. Les Israélites l'ont appris à leurs dépens. Lorsqu'ils l'ont rejeté, lorsqu'ils se sont éloignés de lui, ils ont payé un prix terrible. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due? Il y a un respect, il y a une crainte révérentielle qui est due au Tout-Puissant. Et ça, ça doit paraître dans notre façon de faire, dans notre façon de vivre, puis dans nos supplications, pour lui demander qu'on change. Et regardez le verset 12, que Moïse demande à Dieu. Et ça, nous, on doit le demander à l'approche des fêtes en particulier, à l'approche de la fête du printemps, à la fête de la Pâque. Enseigne-nous à bien compter nos jours, à voir qui nous sommes, qu'on n'est rien, qu'on dépend de toi entièrement, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. À la sagesse. À savoir qui nous sommes et qui tu es, Père. Et à apprécier les fêtes que tu nous as données et l'appel merveilleux que tu nous as donné. Le plan de Dieu, ça nous enthousiasme. C'est notre avenir et pas un avenir à court terme. C'est un avenir éternel, sans limite. C'est quoi votre but? C'est quoi mon but? Depuis que Dieu nous a appelés. C'est d'un jour naître dans la famille de Dieu et d'avoir à ce moment-là la vie éternelle. C'est ça, hein? De devenir comme le plus vieux de la famille, comme le Christ, le premier-né d'entre les morts. Et après ça, d'agir en relation avec lui et avec notre Père pour l'éternité, à bâtir plein de choses, à faire des projets, à vivre dans un monde merveilleux, dans des conditions toujours idéales, ce qu'on n'a jamais connu, mais à quoi on peut rêver. C'est à ça qu'il nous donne de rêver quand il nous appelle. D'où l'importance des fêtes et notre appréciation qu'il doit y avoir pour les fêtes. Ça, c'est notre but, entrer dans le royaume de Dieu, dans la famille régnante du Créateur de l'univers. Tout le reste à partir de là, si on y pense comme il faut, tout le reste à partir de là, est-ce que c'est pas secondaire? Tout le reste est secondaire. Dans ma courte vie, tout le reste est secondaire. Notre travail, notre position sociale, notre famille même, notre conjoint. On a vu tantôt l'annonce d'une dame qui a perdu son mari l'an passé dans l'église et qui continue, que Dieu vient de guérir d'un cancer pour laquelle il est intervenu pour l'encourager et tout ça. Voyez-vous, tout ça est passager. Toutes ces pages-là, à un moment donné, seront tournées. Le Christ sera là, le royaume sera établi et ceux qui auront été fidèles vont recevoir la vie éternelle, vont avoir atteint le but d'entrer dans la famille régnante de Dieu. Nos possessions actuelles, qu'on en ait, qu'on n'en ait pas, qu'on n'en ait plus, quelle importance? C'est encore là, secondaire. Je vais plus loin, même notre santé. En tant qu'être humain, du côté santé, il y a toutes sortes de circonstances qu'on passe inévitablement au cours d'une vie. Même notre santé, c'est pas la chose principale. On peut être malade, et ça, j'ai vu ça, et je vois encore certains membres de l'Église que Dieu a jugé bon de ne pas guérir pour l'instant, qui sont malades, qui sont limités, mais qui sont reconnaissants envers Dieu pour tout ce qu'il leur laisse encore et pour ce qui s'en vient pour eux autres. Là, ils ont, à ce moment-là, la vraie perspective qu'on a vue dans Psaume 90. Qui sommes-nous? Donne-nous la sagesse pour compter nos jours puis savoir ce qui s'en vient, ce que tu as fait pour nous, à quel point tu nous aimes. Tout le reste est secondaire dans notre vie, tout. Quand Dieu nous appelle, il nous montre qu'il n'accepte pas d'être le second violon en rien. Dieu nous dit, je veux que vous me placiez en premier dans tous les aspects de votre vie. Ça, on doit apprendre ça, il nous le montre. D'ailleurs, allez à Luc, chapitre 14. Luc, chapitre 14. Ça, c'est un verset, je me rappelle que le ministre de l'Église de Dieu qui m'a baptisé nous a expliqué avant le baptême. Et tous ceux qui ont été baptisés dans l'Église de Dieu se sont fait expliquer ce point-là avant d'être plongés dans les eaux du baptême, avant de signer le contrat éternel dans le sang du Christ, d'accepter le Christ en tant que notre sauveur personnel, puis de dire, je veux maintenant t'appartenir pour toujours, quel que soit le prix à payer. Je veux que tu sois le premier dans ma vie. Alors, regardez ce qu'il dit ici. Le Christ parle, il dit ceci. Luc 14, verset 26. Si quelqu'un vient à moi, donc si quelqu'un est appelé par Dieu à aller au Christ, c'est le Christ qui parle. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Quand je vous dis que Dieu n'accepte pas d'être le deuxième dans notre vie, en quoi que ce soit, lorsqu'il nous appelle. Verset 27, « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. » Alors, ça, c'est une partie intégrante du contrat qu'on signe lorsqu'on passe par les eaux du baptême. Et à partir de là, on a besoin de continuer à développer une relation de plus en plus étroite et de plus en plus profonde et de plus en plus réelle avec le Christ, notre Pâque. D'ailleurs, Paul en parle en ces termes-là à un ou deux endroits dans ses écrits. Hein? Il dit « Le Christ, notre Pâque, a été immolé. » Parce que le Christ, il est l'agneau de Dieu. Il est le sacrifice qui s'est offert volontairement pour payer l'amende de nos péchés. On a besoin de comprendre puis d'apprécier de plus en plus la Pâque de Dieu. C'est pour ça que je vous en parle en approchant de la Pâque, pour qu'on goûte à ce que c'est. On s'applique à y penser, à faire nos études là-dessus, des prières en rapport avec ça, jeûner avant la Pâque, même pour ceux qui ne sont pas encore baptisés, pour se préparer pour éventuellement. Alors, parce qu'on a besoin d'apprécier de plus en plus ce qu'est la Pâque, de réaliser de plus en plus que c'est seulement grâce à lui, hein, grâce au Christ, qui nous a donné la vie, qu'on peut être pardonné, qu'on peut graduellement vaincre nos faiblesses. Je dis bien graduellement parce qu'on n'est pas capable d'y arriver tout d'un coup. Il y a des choses qu'on peut réaliser tout d'un coup, mais d'autres, non. Et c'est par seulement sa force qu'on peut y arriver. Et qu'on peut avoir, c'est encore grâce à lui, qu'on peut avoir un jour la vie éternelle. Au moment de l'imposition des mains, après avoir été baptisé, on reçoit un peu de l'Esprit de Dieu en nous. La Bible appelle ça un dépôt de la vie éternelle, comme un paiement initial. Et si on est fidèle et qu'on persévère jusqu'au bout, en plus du paiement initial, au moment du retour de Christ, Dieu nous donne le restant de son esprit qu'on a besoin d'avoir pour être transformé en être spirituel. C'est ça qui se passe dans le cheminement. Et c'est pour ça, quand vous allez vous voir dans Galates 2, on peut aller rapidement, Galates 2, le verset préféré de M. Meredith. Il revient souvent avec ce verset-là, mais c'est une clé. Et ça fait partie du sermon que je vous donne aujourd'hui. Regardez ce que Paul dit en ce sens-là. C'est par le Christ qu'il est possible, un, d'être pardonné, deux, d'avoir la force de vaincre, de croître, de grandir et de nous rendre jusqu'au moment où on va recevoir la vie éternelle. Galates 2, verset 20. C'est Paul qui parle, et chacun des baptisés peut dire la même chose, et doit dire la même chose, et le vivre et l'apprécier. J'ai été crucifié avec le Christ. Non, j'étais pas sur la croix avec lui. Mais quand j'ai été plongé dans les eaux du baptême, j'ai passé par son sacrifice pour être lavé. C'est pour ça que j'ai été crucifié avec lui. Parce que lui, il a pris mes fautes sur ses épaules. Quand j'ai passé par les eaux du baptême, que j'ai compris que c'est seulement par lui que je pouvais être pardonné de mes fautes par ce sacrifice-là, et que je devais passer par les eaux du baptême, à ce moment-là, c'est ce qui s'est passé. J'ai été crucifié avec le Christ. Et après que j'ai été baptisé, que j'ai reçu le Saint-Esprit, Paul dit, « Et je vis. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus l'ancien Paul ou l'ancien moi-même. C'est le Christ qui vit en moi. » Et là, j'ajoute ceci, c'est que une partie de mon travail, moi, ça doit être de m'enlever du chemin le plus possible pour qu'il y ait de plus en plus de place pour le Christ en moi. Et que mon vieux moi qui faisait les choses à sa façon, puis qui pensait à sa façon, puis qui aimait avoir raison, soit de moins en moins là, pour laisser du terrain au Christ, pour occuper les lieux, pour me développer selon son caractère. Si je vis maintenant dans la chair, et je vis encore dans la chair, même si j'ai été baptisé, je vis par la foi du Fils de Dieu. Voyez-vous, c'est pas ma foi, c'est la foi du Fils de Dieu. Et regardez, qui m'a aimé, et qui s'est livré lui-même pour moi. Et le sacrifice que le Christ a fait, il l'a fait pour chacun des êtres humains individuellement, pour le jour où il allait se repentir. Allez à Genèse chapitre 1, dès le début de la Bible. Genèse, premier chapitre. Genèse chapitre 1. Si je résume, pour bien mettre le focus sur la Pâque, sur l'importance du Christ, le Christ, il est toute chose. Le Christ est tout. Le Christ est le pivot du plan de Dieu. Le Christ est notre Créateur, physiquement et spirituellement. Rappelez-vous que c'est lui qui s'est penché sur de la terre rouge, ça s'appelle Adam, et qui a soufflé dans les narines d'Adam et qui lui a donné la vie. Et le Christ a permis que chacun d'entre nous ait la vie physique. C'est lui qui nous a donné la vie physique. Et c'est lui qui nous donne la vie spirituelle lorsqu'il nous donne son esprit pour qu'on comprenne, qu'on puisse se mettre en marche pour changer. Le Christ, il est tout. C'est lui qui a payé l'amende. Pour moi, mettez votre nom, pour vous, personnellement. C'est lui qui donne la foi, comme on a vu, et c'est lui qui l'amène à la perfection. Si mon cœur est disposé, et si je le supplie de le faire, il va le faire, c'est ce qu'il veut. Et il veut votre bonheur, il veut votre bien, il veut que vous arriviez au but. Il vous a appelé, et il m'a appelé pour que nous réussissions, pour que nous atteignions le but. C'est lui qui va nous donner la vie éternelle, par sa vie à lui. Il va nous communiquer davantage de sa vie pour que nous ayons la vie éternelle. Regardez Genèse 1, commençons au verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre devint informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Qui est ce Dieu qui a dit que la lumière soit? C'est le Christ. Je dis, le Christ, il est tout. C'est le Christ qui est notre Pâque et c'est le Christ qui est notre lumière. Et c'est intéressant de voir que le premier commandement qu'il a donné, ça a été qu'il y ait de la lumière. Ça commence un peu par le reflet de ce qu'il est, dans le fond. Le Christ, il est la lumière du monde. Dès le tout début de l'humanité, le sacrifice de la Pâque a été présent. Dans la première famille, Adam, Ève, Caïn, Abel. Allez à Genèse 4. Je vais vous montrer quelque chose que vous avez peut-être pas vu sous cet angle-là, mais qui est important et qui est encourageant, qui nous montre la majesté de Dieu, sa puissance, comment il fait rien à peu près, comment tout est en ordre. Dès le tout début de l'humanité, le sacrifice de la Pâque était présent. Genèse 4, versets 1 à 4. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Bon, maintenant regardez verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Et on se pose parfois des questions par rapport à ça, parce qu'on dit, écoutez, les deux ont fait une offrande à Dieu, ils ont fait quelque chose, tous les deux, là, pour plaire à Dieu. D'accord, Abel a offert des animaux, mais Caïn a quand même pris des productions de la terre et les a offert à Dieu. Comment ça se fait que les choses sont comme ça? D'abord, l'offrande doit être quelque chose de très bien, de ce qu'il y a de mieux. Abel, pour offrir des animaux, comme il a fait, a fallu qu'il répande le sang d'un animal. Vous êtes-vous arrêté à ça? Pour offrir les premiers-nés de son troupeau, a fallu qu'il offre le sang d'un animal. Et ça implique que ce principe-là de sacrifice offert à Dieu était déjà implicitement inclus dans ce qui se passait là-bas. Ils avaient été enseignés sur ce qu'ils avaient à faire. Abel a fait ce qu'il avait à faire. Il n'a pas décidé un bon matin, ce serait bien, je pense, d'offrir des animaux à Dieu. Il fallait que Dieu lui ait parlé et lui ait dit quoi faire. OK? Et il l'a fait exactement comme Dieu avait dit. Et c'était justement, dès le début de l'humanité, le symbole du sacrifice du Christ qui allait devoir être fait plus tard pour le pardon des péchés. Tout au long de l'Ancien Testament, il y a les sacrifices qui étaient offerts, qui représentaient le sacrifice à venir du Christ à ce moment-là, jusqu'à temps que le Christ vienne. Et quand le Christ est venu et s'est offert lui-même, on n'a plus eu besoin de faire des sacrifices d'animaux. parce que ces sacrifices-là représentaient ce qui allait venir. Et une fois que la réalité est venue, on n'a plus besoin du symbole, si vous voulez. Alors, c'était déjà le symbole de la Pâque à venir. Vous irez voir dans Lévitique 17, verset 14. Lévitique 17, verset 14, c'est marqué. La vie de toute chair, c'est son sang qui est en elle. La vie de toute chair, c'est son sang qui est en elle. OK? Alors, votre vie, ma vie, c'est mon sang. Si mon sang s'en va, je meurs. OK? Ma vie est là. Et la circulation avec l'oxygène et tout ça fait que ça entretient la vie. Et seul le sang du Créateur de tous les êtres humains, pécheurs, les êtres humains sont tous pécheurs, seul le sang du Créateur qui leur a donné à tous la vie pouvait payer le prix de tous les êtres humains pour leurs péchés. Comprenez-vous? Même moi, je ne peux pas payer le prix pour mes propres péchés. C'est trop grand, ça me dépasse. Ça prenait la vie, ça prenait le sang versé du Créateur de tous les êtres humains pour payer le prix des fautes de tous les êtres humains. Ça, c'est le principe. Le Christ est tout. C'est celui qui joue le rôle premier et le rôle essentiel dans le plan de Dieu. Allez dans Jean 1 maintenant. Vous pouvez garder votre place dans Genèse, on va revenir, mais allons dans Jean, l'Évangile de Jean, chapitre 1. Jean, chapitre 1, dès le début ici. On reprend l'histoire qu'on a vue tantôt dans Genèse 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Donc, il y avait deux dieux formant l'entité divine. OK? Il y avait le Dieu suprême et il y avait son porte-parole. Quand on dit la parole, c'est son porte-parole. Celui qui parlait pour le Dieu suprême. Et la parole était Dieu. Ah oui, le Christ était Dieu aussi. Elle était au commencement avec Dieu. Et regardez, toutes choses ont été faites par elle, c'est-à-dire par le Christ. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. La vie, elle est dans la parole de Dieu. Elle est dans le Christ, la vie. La vie éternelle qui va nous être donnée plus tard si on est persévérant, elle va venir du Christ. C'est ça que je vous ai dit tantôt. Et le dépôt qu'on reçoit de vie éternelle, c'est un peu de la présence du Christ en nous, comme on voit dans Galates 2, verset 20. Si je vis encore dans la chair humaine, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Tout ça, ça se tient de façon très serrée. En elle, la parole, ou le porte-parole, était la vie. Et la vie était quoi? La lumière des hommes. La lumière des hommes. Début du verset 5, la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue ou ne l'ont point vaincue. Il y a plusieurs personnes dans le monde et groupements religieux, malgré toute leur bonne volonté, qui parlent beaucoup du Christ. Mais ils ne font pas ce qu'ils demandent. Ils ne font pas ce qu'ils demandent. Ils n'imitent pas le Christ. Ils ne font pas les choses comme le Christ a dit de les faire, mais ils les font à leur façon, avec leur fête, leur genre de cérémonie, leur genre de choses. Voyez-vous? Verset 9, même chapitre, verset 9. Elle, la parole ou le porte-parole, était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu un jour, le jour où le Christ reviendra. Lesquels sont engendrés non du sang, non de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors le Christ nous appelle pour réussir. Et si nous sommes fidèles, nous allons réussir, nous allons atteindre le but. Maintenant, je reviens dans Genèse, parce que j'ai pas répondu à la question que vous vous posez sans doute concernant Caïn, concernant l'offrande de Caïn. Je veux faire des nuances qui sont importantes ici. Genèse 4, et on peut reprendre le verset 4. Abel, de son côté, fit une offrande des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et vous marquez les premiers-nés, pas juste des animaux, mais les premiers-nés de ces animaux. OK? Le Christ était le premier-né de Dieu. Le Christ est devenu le premier-né de Dieu. Il y a une correspondance exactement là-dedans. Et ça préfigurait, comme j'ai mentionné, le sacrifice du Christ qui allait venir plus tard pour effacer les fautes de ceux qui allaient se repentir à mesure qu'ils allaient le faire. Maintenant, regardez le verset 5. Mais Dieu ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Dieu, comme j'ai mentionné, les avait tous les deux instruits des choses qu'ils devaient faire. Mais Caïn a voulu faire les choses à sa façon. De toute évidence, c'est ce qu'il a fait ici, parce qu'on voit tout de suite après. Mais l'Éternel ne porta pas un regard favorable sur Caïn, sur son offrande. Caïn fut très irrité, son visage fut abattu, et ainsi de suite. Et après, Dieu dit, repends-toi, change. Laisse pas le péché dominer sur toi. C'était déjà une faute, c'était déjà un péché que de vouloir faire les choses à sa façon. Caïn a voulu faire les choses à sa façon, suivre ses idées, suivre ses sentiments. Comme Jéroboam, ça vous dit-tu quelque chose, Jéroboam? Quand il a été chef des 10 tribus au nord, ce qu'on appelait la maison d'Israël, comparativement à la maison de Juda, et qui a voulu garder le peuple avec lui, il a fait des fêtes, semblables aux fêtes de Dieu. Mais au lieu de les faire le 7e mois, comme Dieu le commande dans sa Bible, il les a faites le 8e mois de l'année. Et il a établi des statues du soleil que les gens pouvaient adorer, et ainsi de suite. Il a établi toute une fausse religion basée, dans le fond, sur les anciennes pratiques païennes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait comme Caïn. Il a fait ce que lui pensait être bon. Puis il pensait honorer Dieu avec ça, puis garder le peuple pour lui. Et il pensait plaire à Dieu, alors que Dieu avait dit exactement le contraire. Voici quelles sont mes fêtes, et voici comment les observer, et voici quand les observer. Voyez-vous comment le cœur humain est tortueux, et il peut même se prétendre avoir raison. Lorsqu'il établit ses propres données, ses propres raisonnements, il se prend à son propre piège. Il pense plaire à Dieu, mais dans le fond, il déplaît au Créateur et il se place dans une situation qui entraîne des conséquences. C'est l'histoire de l'humanité, quand vous regardez ça, qui a suivi ses propres voies depuis le tout début. On a toujours rejeté les voies de Dieu plutôt que de faire ce qu'il a commandé. C'est pour ça que dans Proverbe, il est écrit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue ou son résultat, c'est la mort. » Mais ça a l'air d'avoir du bon sens pour son propre raisonnement. C'est comme ça que ça doit marcher. C'est comme ça qu'on doit faire les choses. Dans Genèse 8, verset 20, vous pourrez aller voir, c'est marqué un peu plus loin que Noé, lorsqu'il est sorti de l'arche, il a fait la même chose. Il a offert des sacrifices d'animaux. Même affaire, même principe. Parce que le principe, il était connu. Maintenant, voyons le moment où Dieu a codifié officiellement la Pâque de l'Ancien Testament. Allons dans Exode 12. Exode chapitre 12. On va voir... Quand Dieu a codifié la Pâque. Exode 12, versets 1 à 5. Dieu était sur le point de délivrer Israël, qui était en esclavage depuis plus de 400 ans en Égypte. Et là, maintenant, il leur dit quelles sont ses fêtes et quelle est la première fête qu'ils doivent observer. Et cette première fête-là qu'ils doivent observer, c'est le début de leur délivrance. Sur le plan physique. Comme nous, c'est le début de notre délivrance. L'observance de la Pâque sur le plan spirituel. Le début de l'élimination de la mort éternelle pour aller vers la vie éternelle. L'Éternel dit à Moïse, verset 1, et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle. Le Christ n'avait jamais péché. Le Christ, l'agneau de Dieu, n'a jamais péché. Il était sans défaut. C'était un homme sans défaut. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Alors, cette Pâque instituée ou codifiée à la sortie d'Égypte avait été décidée et planifiée très longtemps auparavant. C'était pas nouveau, là. Donc, on a déjà vu par Caïn et Abel, on a déjà vu par Noé que c'était déjà inculqué de devoir faire des sacrifices et ça représentait la Pâque. Mais ce n'était pas nouveau, ce concept-là avait été planifié par Dieu et par le Christ qui savait, avant de créer les êtres humains, que les êtres humains allaient pécher et qu'ils allaient devoir avoir un sacrifice pour payer l'amende de ces péchés-là. Gardez votre place dans Exode. Allons dans 1 Pierre 1. 1 Pierre chapitre 1. Et nous allons lire le verset 17 à 20. Et si vous invoquez comme père celui qui juge, selon l'œuvre de chacun, Alors, voyez-vous, ce qu'on fait a une importance, parce que Dieu nous examine selon ce que nous faisons. Sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Et on a vu tantôt par la bouche de Moïse que notre séjour sur la terre, il n'est pas long. Et quand on regarde en arrière, qui que ce soit d'entre nous, on trouve que notre vie est passée rapidement. Qu'on ait 30 ans, 50 ans, 60 ans. Pendant le temps de votre séjour sur la terre. Verset 18. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or ou de l'argent, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. On vient voir quel agneau il devait choisir pour faire la Pâque. Il est prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Alors, avant la fondation du monde, quand Dieu avait établi le plan avec le Christ de créer des êtres humains, il savait qu'il y aurait un prix à payer et il avait déjà été décidé dans ce passé fort lointain qu'un des deux devrait donner sa vie et le Christ s'était offert pour être l'agneau expiatoire, pour payer l'amende de nos fautes. Alors, ce qu'on voit dans l'institution qu'on appelle l'institution de la Pâque, c'était la mise en codification de ce qui avait été décidé longtemps auparavant. Exode 12, maintenant, on continue. Verset 6. Vous le garderez, le petit agneau, jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on en mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain, parce que c'est le début de la fête des pains sans levain, c'est la saison, et des herbes amères. Vous ne la mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez. Quand vous le mangerez, c'est l'ordre qu'il avait donné aux Israélites. Il dit, quand vous allez manger l'agneau pascal, vous aurez vos reins sains, c'est-à-dire vous serez déjà habillés comme prêts à partir. Vous aurez votre ceinture, vous aurez votre linge sur le dos, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. On parle d'un bâton de marche ici. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. La directive qui est donnée ici, vous le mangerez à la hâte, c'est parce que les Israélites devaient être conscients qu'ils étaient dans une situation d'urgence, qu'ils devaient être prêts très rapidement, qu'ils devaient se tenir prêts même. Jusqu'au moment où le signal leur allait être donné de sortir de leur maison. Et encore aujourd'hui, c'est la même chose. Et c'est pour ça que le sermon d'aujourd'hui, le cœur tourné vers la Pâque. Est-ce que je suis prêt à prendre la Pâque? Est-ce que je suis vraiment dans les bonnes dispositions? Sinon, c'est le temps de supplier Dieu, de jeûner, de lui demander de m'aider à corriger la voie pour vraiment me préparer à prendre la Pâque d'une façon pure, honnête, sincère, en désirant continuer à changer avec son aide. Il faut que j'aie ce sentiment d'urgence. Nous n'avons pas des dizaines d'années devant nous. Nous devons être prêts. Et chaque Pâque marque une étape importante et marque un temps où l'horloge accordée aux êtres humains approche de sa fin. Verset 12. Cette nuit-là, dit Dieu, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Voyez-vous l'importance du sang ici? Même si ce sang-là était un sang d'agneau, et même si la protection qui leur a été accordée était simplement une protection physique, mais c'était majeur, c'était leur vie physique qui était en cause. Dieu dit, je vais voir le sang que vous avez mis sur le linteau et les poteaux de la porte, et à ce moment-là, ça voudra dire que vous avez obéi à ma directive. Et parce que vous avez obéi à ma directive, je vais « pass over », comme on dit en anglais, je vais passer par-dessus cette maison-là et vous allez être épargnés. Et c'est la même chose en ce qui concerne la mort éternelle. Être épargné de la mort éternelle qui vient. Et c'est encore en vigueur aujourd'hui de faire ce que Dieu nous dit, mais avec les nouveaux symboles de la Pâque, bien sûr. Verset 14. « Vous conserverez le souvenir de ce jour. » Et on en parle aujourd'hui, justement, parce que c'est le rôle du ministère de donner ce qu'on appelle la viande en sa saison, de donner la nourriture en sa saison, pour qu'on soit prêt pour chaque étape au cours de l'année, pour que vous conserviez le souvenir de ce jour et que vous le célébriez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Alors, c'est encore la même chose qu'on fait aujourd'hui, la même Pâque. Sauf que maintenant, selon la directive que le Christ lui-même nous a donnée lorsqu'il est venu, nous prenons la Pâque avec les nouveaux symboles du pain qui représente son corps et du vin qui représente son sang. Mais le reste est resté le même. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Et nous allons commencer à lire au verset 1. Versets 1 et 2. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Il leur avait dit plusieurs fois qu'il allait être crucifié, hein, mais ils ne le croyaient pas, ils ne croyaient pas le Christ. Même quand Judas est venu le trahir, vous vous rappelez, Pierre a pris une épée et a voulu le défendre parce que il voulait pas que ça se produise. Pourtant, il leur avait dit, « Je suis venu pour être crucifié, pour donner ma vie. » C'était ça le but de l'opération. Mais regardez ce qui s'est passé en même temps. Verset 3. « Alors les principaux sacrificateurs, les anciens du peuple, se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur, appelé Caïphe, et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. » Si vous remarquez bien ceci. Ça a toujours été les chefs religieux qui ont persécuté le Christ puis les chrétiens. Quand c'était pas eux autres directement, ils incitaient les dirigeants civils à s'en prendre aux chrétiens. Mais ils étaient derrière, ils étaient toujours impliqués. Et souvent, ils étaient la source des persécutions qui arrivaient. Comme il n'y a rien de nouveau sous le soleil, on sait que ces choses-là vont se reproduire bientôt. On sait que ces choses-là vont recommencer. Verset 19. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils préparèrent la Pâque, le repas de la Pâque. Verset 20. Le soir étant venu, parce que on doit la prendre, la Pâque, entre les 2 soirs, comme on a vu dans Exode. Alors, le soir étant venu, le moment précis, comme on va faire cette année, comme on fait chaque année, d'ailleurs, pour obéir au commandement. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Verset 26. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Alors là, il instituait les nouveaux symboles. Autrement dit, il leur disait en d'autres termes, « Vous n'aurez plus besoin de tuer un petit agneau qui me représentait et de faire couler son sang. Vous allez maintenant prendre le pain et le vin pour représenter mon corps et mon sang offerts pour vous. » Maintenant, je fais une petite précision ici, parce que il y a des grandes religions, entre autres l'Église catholique, qui prétend que lorsqu'ils font la messe et que le prêtre invoque Dieu sur le pain, azim, qui appelle le pain sans levain, l'hostie, on dit que le Christ entre dans l'hostie et que l'hostie devient littéralement le corps de Christ. C'est ce qu'on appelle la transsubstantiation. C'est un grand mot, mais c'est faux. C'est faux. Écoutez, les apôtres étaient là, les disciples étaient là, le Christ était présent devant eux. Et il a pris un morceau de pain, il l'a rompu, il dit, « Ceci maintenant, ça représente mon corps. » Il savait très bien que le Christ n'était pas rentré dans ce morceau de pain-là, que c'était un symbole qui représentait le corps de Christ qui allait être offert pour souffrir pour nous. Ils ont compris ça sans problème, sans difficulté, mais avec les siècles, les fausses religions et les fausses données sont entrées pour faire croire aux gens que le Christ en personne est dans ce pain supposément béni par un supposé ministre de Dieu, ce qui n'est pas le cas absolument pas. Et juste une autre petite précision, le Christ a d'abord rompu le pain parce que c'est dans l'ordre des choses. Il a d'abord été battu dans son corps avant de verser son sang et de mourir. Donc, c'est dans le même ordre exactement. Verset 27. Verset 27. Et il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup. Alors, les disciples savaient que c'était encore du vin, mais que ça représentait le sang de Christ et que c'est ce qu'on doit prendre chaque année à la Pâque. Et il dit, ça a été versé pour la rémission, pour le pardon des péchés de beaucoup. La vie est dans le sang. On l'a vu tantôt. La vie est dans le sang. Alors le Christ a dit, ça représente mon sang. Je vais le donner, je donne ma vie pour que vos péchés soient effacés. Verset 29. Je vous le dis, je n'en boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de Dieu. Et le Christ va reprendre la Pâque un jour lorsqu'il sera revenu. Et ça va être un événement majeur, important. Verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané et il dit aux disciples, « Essayez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Et il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Je comprends, lui savait exactement tout ce qui allait se produire. Il savait qu'il allait être crucifié. Il savait toutes les souffrances par lesquelles il allait passer. Parce que quand vous regardez, on pourrait faire toute une étude là-dessus, quand vous regardez toutes les prophéties de l'Ancien Testament qui annoncent comment il allait souffrir, c'est lui qui avait inspiré les prophètes de l'Ancien Testament de dire qu'est-ce qui allait se passer exactement, jusqu'au détail le plus petit, bien mentionné, comme le fait qu'à un moment donné, ils allaient tirer sa tunique au sort, à quel prix il allait être vendu. Tout ça est marqué dans l'Ancien Testament. C'est lui qui l'avait inspiré. Alors là, il savait que ça s'en venait. Il savait qu'il était venu pour mourir et donner sa vie dans des souffrances atroces. Et je comprends qu'ils disent ici, mon âme est dans une tristesse incroyable. Restez ici, éveillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria en disant, mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Que ce soit autrement, que ce soit autrement dit. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et ça, c'est la phrase que nous devons marquer profondément dans nos esprits puis dans nos cœurs, en toute chose de notre existence humaine. Père, que ta volonté soit faite, pas la mienne. On commence toujours, et vous remarquez, par vouloir faire notre volonté. Mais Père, que ta volonté soit faite, et non la mienne. Verset 40. Et il vint vers ses disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller une heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair sans l'esprit de Dieu, elle est faible, elle est impuissante. Verset 47. Comme il parlait encore, voici Judas et les autres arrivèrent. Et là, on a l'épisode où Judas le trahit, où Pierre tente de le défendre avec une épée. Et le Christ, au verset 53, lui dit, penses-tu que je ne peux pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Autrement dit, il dit à Pierre, « Je suis venu pour mourir. N'essaie pas d'interférer pour empêcher ça. Si je voulais l'arrêter, je pourrais l'arrêter. J'ai la puissance et mon Père a la puissance de le faire. Mais on ne dérogera pas d'un iota du plan que nous avons établi. Et je vais aller jusqu'au bout. » Et il est allé jusqu'au bout. La suite des événements tragiques, chapitre 27, verset 22. Chapitre 27, verset 22. Pilate leur dit, « Que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ? » Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Et on sait ce qui s'est passé. Pilate s'est lavé les mains. Et au verset 26, « Alors Pilate leur relâcha Barabbas en pensant s'être dégagé de sa responsabilité. Et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. » Verset 38. Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Et regardez ce qui se passait. Ce que le Christ a enduré pour moi personnellement et pour vous personnellement. Les passants l'injuriaient. Il était en croix, percé, en train de verser son sang, souffrant des douleurs atroces. Et dit, les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. » Oui, les moqueries, les railleries. « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix, montre-nous-les, prouve-les. » Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, « Il a sauvé les autres et il ne peut même pas se sauver lui-même. » Imaginez-vous comment ça devait être dur en plus de la souffrance physique, d'endurer ses moqueries, ses insultes, de la part de ceux-là même qu'il était venu pour sauver. Il était en train de mourir même pour ceux qui l'injuriaient là, même pour ceux qui l'avaient cloué sur la croix. Si les rois d'Israël qui descendent de la croix, nous croirons en lui, il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. C'est le contexte dans lequel le Christ a vécu ses heures d'angoisse incroyables. Et à cet instant, regardez le verset 45, « Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième heure, il y eut des ténèbres sur la terre. Et vers la neuvième heure, vers 15 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Les mêmes paroles qu'il avait inspirées d'être écrites dans l'Ancien Testament, à son sujet. Il a dit exactement les mêmes paroles prophétiques qu'il avait lui-même inspirées d'être écrites. À ce moment-là, il a pris sur lui toutes nos fautes, les vôtres et les miennes y compris. Et vous savez ce qui s'est passé? Gardez votre place, mais allez dans 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5. Vous savez ce qui s'est passé à ce moment exact? C'est qu'il est, devenu nos péchés. Non seulement il a pris sur lui nos péchés, mais il est devenu nos péchés. 2 Corinthiens 5 et le verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, le Christ n'avait jamais péché. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché. Il est devenu péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu, après avoir été pardonné, purifié, passé par les eaux du baptême, et après avoir reçu le Saint-Esprit, de vivre en nouveauté de vie, de laisser le Christ vivre en nous, sa vie, pour que nous devenions comme lui, justes, vivant selon les lois de Dieu. Alors, à cet instant même, il a pris sur lui tous nos péchés, non seulement ça, mais il est devenu nos péchés. Allez à Ésaïe 59, gardez votre place dans Matthieu 27, Ésaïe 59. Je vais vous montrer autre chose en rapport avec ça ici. Parce que, vous savez, il est écrit que le péché nous sépare de Dieu. Tant qu'on n'est pas appelé, tant qu'on n'est pas pardonné de nos péchés, il y a un mur énorme entre nous et notre Créateur, entre nous et notre Dieu. Un mur qu'aucun être humain n'est capable de franchir, quelles que soient ses actions, ses regrets ou quoi que ce soit. Si ce n'est pas Dieu qui l'appelle et si Dieu ne lui pardonne pas ses fautes. Le péché nous sépare de Dieu. Ésaïe 59, versets 1 et 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes, en parlant de vous et de moi, vos crimes, vos péchés, qui mettent une séparation, un mur de séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Et l'empêche de vous écouter. Quand ce mur-là est présent, Dieu ne peut même pas nous entendre. Et il ne nous entend pas. Il ne reçoit pas notre prière. Alors, comprenez-vous qu'à ce moment-là, quand le Christ, non seulement a pris nos péchés sur lui, mais qu'il est devenu nos péchés, comme le péché nous sépare de Dieu, le Christ a alors été totalement séparé de son Père pendant une très courte période de temps. Mais ça a dû être atroce parce que jamais, jamais, il n'avait vécu cette expérience-là de toute l'éternité, pour ainsi dire, avant. Il avait toujours été proche de son Père et avec lui. Et même quand il était dans la chair humaine, il était en contact avec son Père, il allait le prier, il suppliait de lui donner davantage de force, de l'aider. Et Dieu lui répondait, il était en relation avec lui. Mais au moment où il est décédé, au moment où il a pris sur lui nos fautes, où il est devenu nos péchés, il a été complètement séparé de Dieu et c'était la première fois que le Christ vivait une telle expérience. Ça a dû être une période d'angoisse effroyable. Revenons à Matthieu 27 et le verset 47 maintenant. Quelques-uns de ceux qui étaient là, après que le Christ a dit à Dieu, « Pourquoi m'as-tu abandonné? » Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, « Il appelle Élie. » Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixée à un roseau, il la lui donna à boire. Mais les autres dirent, laisse, voyons si Élie va venir le sauver. Et ici, je veux préciser une chose, c'est que dans la plupart de vos Bibles, si vous avez une Bible Louis II, comme la mienne, qui est pourtant très proche du texte original, il manque un bout de phrase ici. Moi, je l'ai rajouté au crayon, parce que c'est très important. Le bout de phrase qui manque, c'est ceci. Après, où il est écrit « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver ». Dans le texte original, et entre autres dans les manuscrits byzantins, le Dr. Hay a fait des recherches là-dessus, d'ailleurs dans la version anglaise Moffat aussi, on trouve le bout de phrase que je vais vous donner, qu'on peut écrire là, qu'on doit écrire là. Mais un autre, prenant une lance, lui perça le côté, et il en sortit de l'eau et du sang. Alors, après que le Christ a dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» et ainsi de suite, il y a un soldat qui a percé le côté, et c'est là que le Christ est mort. Il a sorti un peu d'eau et un peu de sang qui restait. Verset 50, « Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. » C'est à ce moment-là que le Christ est mort de cette façon-là. C'est important qu'on le voit exactement ce qui est arrivé. Verset 51, et exactement à ce moment-là, « Et voici, le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. » Et le voile du temple, si vous faites des recherches là-dessus, ce n'était pas un petit rideau. C'était comme un tapis très épais que même un groupe d'hommes n'aurait pas pu déchirer en tirant chacun de leur côté. Et pour montrer que ça venait de Dieu et non pas des hommes qui avaient pu faire ça, il s'est déchiré non pas du bas en haut, mais du haut en bas. Et ça voulait dire quelque chose de très important dans le plan de Dieu. Ce voile-là, en fait, il fermait l'entrée de ce qu'on appelle dans le tabernacle de Dieu le Saint des Saints, là où Dieu manifestait sa présence, à l'intérieur du temple. Ça séparait le lieu de sa présence du reste du temple où les sacrificateurs avaient accès plus régulièrement au cours de l'année. Bon, alors, l'être humain ne pouvait pas avoir accès à Dieu, c'est ce que ça voulait dire. L'être humain, sans que Dieu l'appelle et lui pardonne sans le sacrifice de Christ, ne pouvait pas avoir accès à Dieu. D'aucune façon, pour être pardonné et pour être secouru, c'était impossible. C'était impossible. Mais à partir de ce moment-là, à partir de la mort du Christ qui avait été annoncée, voulue, prévue, à partir du moment où il a rendu l'esprit, à partir du moment où le voile s'est déchiré, pour la première fois depuis le jardin d'Éden, avant la faute, les humains pouvaient avoir accès direct au Père. C'était la première fois. Bien sûr, quand il y a un repentir réel, continue, quand il y a une supplication, et dans ce cas-là, Dieu répond. Et Dieu réagit, parce que c'est ce qu'il désire, amener au salut ceux qui l'appellent. Jusque-là, il y avait seulement les prophètes de Dieu qui avaient accès à Dieu. Abraham, Moïse, Daniel, les autres. Matthieu 27, verset 52. Tout de suite après la mort du Christ, qu'est-ce qui arrive en plus du voile du temple qui se déchire? Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Ça, c'est pas les saints, c'est-à-dire de l'Ancien Testament. C'est ceux qui avaient été appelés à l'époque et qui étaient morts à ce moment-là. Et quelques-uns qui étaient décédés à ce moment-là sont revenus à la vie. Les disciples qui avaient été disciples de Christ au cours de sa vie à ce moment-là. Verset 53, « Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre qu'il y a eu et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur, je comprends, et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. » Alors, ces hommes-là ont réalisé, avec tous les signes qui se sont succédés, qui n'étaient pas des signes habituels, normaux, mais qui étaient des signes d'une splendeur incomparable et d'une grandeur incomparable. Ils ont réalisé qu'il venait de se passer quelque chose de considérable, de beaucoup plus grand qu'eux. Il y avait ce sentiment-là. Le sang du Créateur a été versé à la Pâque, permettant notre réconciliation avec Dieu lorsqu'on se repent. Parce qu'avant ça, on était tous séparés de Dieu. Il y avait le mur dont je vous ai parlé tantôt et qu'on voit dans Ésaïe. Est-ce qu'on réalise qu'on a encore besoin régulièrement du pardon de Dieu? Régulièrement. Chaque jour, on a besoin. Et il ne faut pas avoir peur d'aller devant Dieu, de reconnaître nos fautes, de lui demander de nous les montrer. Sinon, on est en difficulté, on est en danger. Le pire qui peut arriver, c'est que nous nous pensions bons. Et en tant qu'être humain, on a tous cette tendance-là, à un moment donné, de se penser bon, de se penser correct. Et la Bible nous dit bien que celui qui pense être debout, et il parle aux gens de l'Église, prenne garde de tomber. Que celui qui pense être debout, qui pense être fort, qui pense être solide, qui pense tout savoir, qui pense avoir tout fait comme il faut, parce qu'on ne sera pas parfait tant que le Christ ne sera pas revenu. Donc, ça veut dire qu'il y aura encore des choses à changer et à améliorer. Mais le pire qui peut arriver, c'est de se penser bon, de pas réaliser qu'on a besoin chaque jour de la miséricorde de Dieu, qu'on a besoin de le supplier, de nous montrer nos fautes, puis de nous donner la force des combats, de lui rappeler Galates 2:20, de dire, écoute, c'est toi qui viens en moi. Aide-moi à pas te bloquer le passage, mais à avoir l'attitude qu'il faut pour que tu luttes et que tu combattes pour moi les combats que j'ai à combattre, que tu montres mes faiblesses. On a besoin de ça pour qu'il nous fortifie. Lui qui nous a aimés, je dirais, de si loin. De si loin. Romains 5. Quand je lis Romains 5, je me dis, Dieu nous a aimés de tellement loin. Romains 5, et le verset 6. Romains 5 et le verset 6. Lorsque nous étions encore sans force, sans l'Esprit de Dieu, sans la présence de Dieu, Christ, au temps marqué, comme on l'a vu, est mort pour des impies, c'est-à-dire ceux qui commettent le mal, pour vous, pour moi, pour tous les êtres humains. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un, ainsi de suite. C'est le principe que je vous donne. Et regardez le verset 9, le début du verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang. Ça, c'est une nuance importante qu'il faut faire. Le sang du Christ ne nous sauve pas. Il nous place sur la voie du salut d'une façon. Mais le sang du Christ a pour rôle de nous rendre justes, de nous justifier. Parce que ça enlève nos péchés quand on se repent. Et lorsque nos péchés sont enlevés, on est pur devant Dieu. On est juste. C'est comme si on n'avait jamais péché. Alors, on est juste. Alors, le sang du Christ nous justifie, nous rend juste. OK? Mais on n'est pas rendu à la vie éternelle encore. Là, il faut persévérer jusqu'à la fin. Mais le sang du Christ nous rend juste. Nous ne sommes pas parfaits encore et nous ne sommes pas sauvés encore. Nous sommes simplement purifiés de nos fautes quand on se repent. Et ça nous ouvre la porte pour être en harmonie avec Dieu, c'est-à-dire être réconcilié avec Dieu. Justifié ici veut dire réconcilié aussi avec Dieu. On le voit un petit peu plus tard. Continuons la lecture, verset 9, on va le reprendre. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés, c'est futur, par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés, c'est-à-dire justifiés, avec Dieu, par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, justifiés aussi, serons-nous sauvés par sa vie. Serons-nous sauvés par sa vie. On est sauvés par sa vie et non pas par sa mort. Par sa mort, on est lavé de nos fautes. Mais pour recevoir la vie éternelle, il faut qu'il nous donne la vie pour avoir la vie. Alors, c'est par sa vie éternelle qu'on le reçoit. Si nous persévérons jusqu'à la fin, nous pourrons être sauvés, c'est-à-dire avoir la vie éternelle, mais par sa vie. Le Christ vit actuellement dans ceux qui sont appelés. Et de plus en plus, jour après jour, heure après heure, minute après minute, alors que nos attitudes deviennent de moins en moins mauvaises. Et c'est ce à quoi il faut s'appliquer avec son aide. Et ce faisant, nous marchons vers le salut pour recevoir la vie éternelle, pour être sauvés. Ça, c'est le processus qu'on peut décrire de la façon la plus simple possible, pour ainsi dire. 2 Corinthiens 10, 2 Corinthiens chapitre 10, s'il vous plaît. 2 Corinthiens chapitre 10, on va lire le verset 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, et nous marchons encore dans la chair dans le sens que nous sommes physiques encore, mais le Christ vit en nous, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. On peut pas prendre des armes physiques, des armes charnelles. On a besoin des armes de Dieu. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et plus on change, plus on est proche de Dieu, en harmonie avec lui, avec le Christ, plus on le supplie de nous changer, là il y a de la croissance. Et plus nos pensées deviennent comme les pensées du Christ. Plus on ressemble au plus vieux de la famille, au plus vieux de la famille de Dieu. Plus on se soumet, plus on s'applique à étudier, à prier, à jeûner régulièrement, à penser, à réfléchir aux choses. Résultat, au retour de Jésus-Christ, si on persévère en ça, en appréciant les choses, au retour de Jésus-Christ, on va recevoir un corps spirituel. Mais un corps spirituel avec beaucoup de caractéristiques très spéciales, dont celle de n'avoir aucune, mais aucune attirance charnelle. Aucune attirance pour le mal. Aucune attirance pour les transgressions, quelles qu'elles soient. Ça va-tu être bon? C'est que le combat va être fini. On aura réussi et on aura reçu la gloire de Dieu et la capacité de le servir éternellement, mais dans la justice, parce qu'on aura pratiqué la justice de Dieu dans des conditions difficiles. Dieu veut qu'on combatte des obstacles pour qu'on développe vraiment le désir, la fermeté par sa puissance d'avoir son caractère. On sera capable de ne plus jamais pécher, comme le Christ. On va être comme le plus vieux de la famille. On va être capable de ne plus jamais pécher. Pas incapable de pécher, ça c'est une autre affaire. La personne qui est ivrogne, qui vit à la taverne, qui à un moment donné tombe paraplégique, ne peut plus y aller, il est incapable de pécher. S'il serait capable, il y irait. Mais là, c'est capable de ne plus pécher. C'est que même s'il y avait des tavernes tout le tour, c'est réglé, on n'y va plus. Voyez-vous? C'est la différence. Je fais la nuance. En ce moment, Dieu œuvre dans chacun de ses appelés. Et il le fait assez longtemps et avec suffisamment de tests et d'épreuves différentes pour être certain de notre loyauté avant de nous donner la gloire, la puissance et l'autorité. Il va être certain. Il va être absolument certain à qui il donne ses pouvoirs. Chaque année, la Pâque nous remémore l'immensité de l'amour de notre Créateur, de notre agneau pascal. Chaque année, ça nous remémore la grandeur de cette bénédiction d'être appelé. Il n'y en a pas beaucoup d'appelés actuellement. Un tout petit troupeau. Ça nous remémore aussi l'importance de continuer à nous humilier devant lui, de le supplier de nous transformer à sa gloire et pour qu'on soit capable de faire toute sa volonté. Vous savez, il suffit pas simplement de penser un peu à la Pâque qui approche. C'est pas suffisant. Il suffit pas de penser un peu à la Pâque qui approche. Il suffit pas non plus simplement de tourner nos yeux vers la Pâque. Mais à partir de maintenant, il faut tourner notre cœur entièrement vers cette Pâque qui approche, à la gloire de notre grand Dieu, pour faire toute sa volonté.